Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Avec sa théorie de l'évolution, Charles Darwin a rompu avec les croyances ancestrales selon lesquelles Dieu a créé toute vie. Enfin, il ne l'a jamais formulé comme ça, mais c'est ce que son travail suggère en filigrane. Les espèces se sont adaptées à leur milieu pour survivre et l'homme n'est pas différent des animaux. Aujourd'hui encore, bien qu'elles soient en grande partie démontrées par la recherche, les théories de Darwin dérangent. Elles remettent en cause la création des espèces par Dieu. Suivez-moi à bord du Beagle, le bateau sur lequel ce scientifique a fait le tour du monde. C'est à son bord qu'il a commencé à élaborer ses théories jusqu'à leur publication presque 25 ans plus tard. C'est l'histoire passionnante et pleine de rebondissements de ce scientifique que j'ai envie de partager avec vous dans un récit en deux parties. Charles Darwin, la révolution de l'évolution. Épisode 1, le collectionneur d'espèces. Nous sommes à Londres au début de l'hiver 1831. Charles Darwin a terminé ses études de théologie à l'université de Cambridge. Une carrière de pasteur l'attend, mais ce projet ne l'emballe pas vraiment. Sa véritable passion est le naturalisme, l'étude et la classification de la nature dans toute sa diversité, animaux, plantes, minéraux. Lorsqu'un de ses anciens professeurs le met en relation avec l'officier de marine Robert Fitzroy, Charles accourt. Fitzroy est capitaine du HMS Beagle, un trois-mâts de la Royal Navy, et il cherche un naturaliste pour l'accompagner dans une grande mission de 2 ans. Il a prévu de longer les côtes de l'Amérique latine pour cartographier ce territoire. Mais avant de s'embarquer à ses côtés, Charles va devoir convaincre son père de l'intérêt de ce voyage. Charles Darwin est né le 12 février 1809 dans une famille bourgeoise de l'ouest de l'Angleterre. Son père, Robert, est médecin et espère que son 5e enfant, Charles, marchera dans ses pas. Mais rien n'est moins sûr. Enfant, Charles se passionne pour les collections d'herbes, d'animaux et de minéraux. À 18 ans, selon les souhaits de son père, il intègre la prestigieuse université d'Édimbourg où il apprend la médecine. Mais il déteste cette discipline. Il trouve la chirurgie brutale. Charles préfère empailler des animaux morts plutôt que de réparer des humains vivants. D'ailleurs, il montre un certain talent pour la taxidermie. Toujours passionné par la nature, il rejoint un groupe d'étudiants, la Société Plinienne. Le nom de l'association vient du nom de Pline l'Ancien, un encyclopédiste génial de l'Antiquité qui a laissé une œuvre colossale intitulée « L'histoire naturelle ». Il est un peu le père du naturalisme. Au sein de cette société savante, Charles commence à partager ses réflexions sur la classification des espèces. Robert Darwin a bien compris que son fils ne serait jamais médecin. Alors il le pousse à devenir pasteur et à s'inscrire en théologie à Cambridge. Charles étudie les textes sacrés du christianisme sans grand enthousiasme, mais il se lie avec le révérend Henslow, qui est aussi professeur de botanique et passionné d'entomologie, l'étude des insectes. Après avoir réussi ses examens, Charles voyage à Tenerife, dans les îles Canaries, pour y étudier la nature. À son retour en Angleterre, il rechigne à endosser le rôle de pasteur de l'église anglicane. Son professeur John Henslow lui offre une échappatoire. Le capitaine du Beagle recherche un naturaliste pour partir avec lui et d'autres scientifiques pour cartographier les côtes de l'Amérique latine. Fitzroy est un homme de 26 ans, ambitieux, autoritaire et taciturne. Darwin ou un autre, ça lui est égal tant que son naturaliste est motivé. Et Charles l'est tout particulièrement. Il rêve de ce tour du monde pour approfondir sa connaissance de la nature aux côtés de ce marin dont l'assurance lui évoque celle de Napoléon. Robert Fitzroy sait que l'homme qui l'a précédé dans cette mission s'est suicidé. Les affres de la solitude dans les confins du monde lui avaient été insupportables. Il doit donc être bien entouré. Il a déjà recruté un cartographe et un artiste dessinateur pour mener à bien sa mission scientifique. Il lui manque un naturaliste pour répertorier la faune et la flore et faire des relevés géologiques. Charles est fou de joie, mais il lui faut maintenant convaincre son père. Robert Darwin s'oppose à ce voyage. Ces deux années d'expédition sont du temps gâché, mais Charles est soutenu par son oncle. Après tout, Erasmus Darwin, son grand-père, était lui aussi naturaliste. Alors Robert finit par céder et subventionne son fils. À cette époque, ces grandes missions de découverte sont souvent financées par les explorateurs eux-mêmes et Fitzroy n'a pas proposé de rémunération à ses scientifiques. Il prend déjà en charge les frais de l'expédition qui doit servir à la découverte du monde et à l'évangélisation de pays lointains. Fitzroy est certes un homme des Lumières, mais c'est aussi un chrétien convaincu avec de grandes ambitions politiques. Il espère que ce voyage servira à sa renommée et sa carrière. Le 27 décembre 1831, le Beagle lève l'ancre et quitte Plymouth. L'équipage est composé d'hommes jeunes. Tout le monde a moins de 30 ans et rêve de gloire et d'exotisme. Aux côtés des marins et des scientifiques, il y a aussi trois indigènes fuégiens, deux hommes et une femme, originaires de la Terre de Feu, l'extrême sud de l'Amérique latine. Fitzroy les ramène chez eux après leur avoir inculqué les mœurs britanniques et les avoir convertis au christianisme. Le capitaine veut que ces indigènes diffusent l'art de vivre à l'anglaise dans leur patrie. En janvier 1832, le Beagle fait escale au Cap-Vert, des îles situées à l'ouest des côtes africaines. Après avoir souffert du mal de mer, Charles Darwin est ravi de mettre le pied à terre. Il se trouve des guides et part à la découverte de la nature luxuriante. Comme il l'écrit dans ses carnets de voyage, il a le sentiment d'être un aveugle qui recouvre la vue. Il décrit tout ce qu'il voit dans ses carnets et choisit différentes espèces d'insectes, d'animaux, de plantes et de roches qui lui semblent inconnues pour les répertorier. Conserver les plantes et les minéraux, c'est facile. Pour les animaux, ses cours de taxidermie s'avèrent très utiles. Il opte pour deux méthodes de conservation. Soit il empaille, soit il immerge son spécimen dans une bouteille d'alcool. L'enfant collectionneur qui sommeille en lui est en extase. Comme il ne peut pas garder tous les éléments de cette collection sur son bateau, il envoie ses découvertes en Angleterre, souvent aux frais de Fitzroy d'ailleurs. Pour l'aider à répertorier ses découvertes, il correspond avec plusieurs chercheurs anglais, mais aussi avec son père qui lui sert parfois de relais auprès d'autres naturalistes. Robert Darwin constate avec fierté que les découvertes de son fils attisent la curiosité des scientifiques anglais. Une bonne partie des bocaux contenant les animaux conservés dans de l'alcool expédié par Darwin sont aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, où ils sont encore à disposition des chercheurs. Pendant son voyage sur le Beagle, Darwin participe à la classification des espèces. C'est un chantier sans fin. Cette méthode mise au point par le naturaliste suédois Carl von Linné au XVIIIe siècle en est encore à ses balbutiements. Pour faire simple, le monde du vivant est divisé en différentes espèces que l'on nomme en latin. Par exemple, nous les humains, nous sommes de l'espèce Homo sapiens, la dernière et la plus récente des espèces humaines en termes d'évolution. Notre genre, notre famille d'espèces, est le genre Homo, les hommes, les êtres humains. Ce genre est un embranchement des hominidés. Encore plus loin dans le temps, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, nous avions un ancêtre commun avec certains singes. Mais on n'en est pas encore là dans le mode de pensée des années 1830. Pour Darwin, et selon les savants calculs des théologiens, Dieu a créé la Terre 4004 ans avant Jésus-Christ. Les créationnistes qui pensent que leur Dieu est à l'origine du monde croient toujours à ça. Mais retournons à bord du Beagle qui arrive tout près des côtes brésiliennes. Nous sommes le 2 avril 1832. Le Beagle a jeté l'ancre dans la baie de Rio et Darwin s'est précipité à terre pour aller visiter les forêts. Ça fait longtemps que le naturaliste s'est forgé une image mentale de ces lieux grâce aux travaux et aux estampes du naturaliste allemand Alexander von Humboldt qui l'a précédé en Amérique latine 30 ans plus tôt. Humboldt a participé à la connaissance des plantes, des animaux et des minéraux de cette région qu'il a décrite comme un univers ordonné proche du Jardin d'Éden. Cette vision du monde est tout à fait normale pour un homme du XVIIIe siècle encore très marqué par la religion chrétienne qui structure la pensée des scientifiques. Darwin est perplexe parce qu'il ne voit pas d'ordre dans les forêts tropicales, mais du chaos. Chaos de l'enchevêtrement des plantes où les branches mortes nourrissent des colonies d'insectes. Le putride et le vivant semblent indissociables. C'est là que des idées commencent à germer dans l'esprit de Darwin. Le vivant doit s'adapter à son milieu naturel pour vivre. La nature participe à la sélection du vivant. Tout ça est encore très confus dans son esprit, mais il voit apparaître un lien entre les aptitudes développées par les organismes pour survivre et les caractéristiques de leur milieu naturel. Et puis une autre idée, presque dérangeante, s'impose à lui. La nature n'est pas belle, ni parfaite. Elle est cruelle. C'est le plus fort qui survit. Tout ça n'est pas du tout compatible avec l'idée de providence ou de perfection créée par Dieu. Pour comprendre les mystères de la nature, il faudrait remonter aux origines de la création, mais ce domaine relève du divin. La religion nous apprend alors que c'est Dieu qui a créé notre monde. Il devrait être immuable. Et pourtant, la nature se transforme, ça c'est certain. Le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck l'a déjà expliqué dans ses travaux. Selon Lamarck, les espèces se transforment pour s'adapter à leur milieu comme la girafe. La girafe a étiré son cou pour atteindre la nourriture en hauteur et au fil du temps, cette caractéristique s'est transmise à sa progéniture et plus les girafes étirent leur cou, plus leur cou est long, génération après génération. C'est le principe de la transmission d'une caractéristique acquise. Les théories de Lamarck n'ont pas vraiment convaincu Darwin. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que c'est faux. Ce sont les girafes pourvues de longs coups qui ont le mieux survécu dans leur milieu parce qu'elles avaient un meilleur accès à la nourriture et elles ont transmis cette caractéristique innée et non acquise à leur descendance. Lamarck avait quand même compris que l'adaptation au milieu naturel était centrale pour la survie des espèces. Avec toutes ces pensées qui se bousculent dans sa tête, Darwin est en pleine tempête intérieure. La foi et la science se livrent une guerre secrète au fond de sa psyché, et ça le mine. Et ça continuera toute sa vie. Il commence à comprendre que l'Ancien Testament, l'histoire d'Adam et Ève ou de l'Arche de Noé, n'ont pas plus de valeur historique que les livres religieux des autres civilisations. Mais ça, il ne peut pas le formuler aussi brutalement, et encore moins devant Fitzroy, qui ne rate jamais l'occasion de célébrer une messe à bord de son bateau. De retour à bord du Beagle après son expédition dans la jungle, Darwin souffre d'une fièvre violente. Il a certainement attrapé une maladie tropicale dont il traînera les effets secondaires qui lui vrillent les intestins pendant plus de 40 ans. En septembre 1832, l'expédition de Fitzroy accoste en Argentine. Darwin est sur le point de faire de nouvelles découvertes extraordinaires qui vont poser les bases de sa théorie de l'évolution. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Darwin, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.